En ce 26 février, j'ai pensé célébrer Monseigneur Félix-Antoine Savard, qui est mort, il y aura 15 ans bientôt, le 24 août 1982. Il est décédé après s'être dépouillé de tout ce qu'il possédait, se préparant à la mort avec une grande foi. Cette foi qu'il a habité toute sa vie. Monseigneur Félix-Antoine Savard, l'un de nos plus grands écrivains, l'un de nos prêtres les plus solides, les plus courageux, un missionnaire colonisateur, un curé de paroisse, un fondateur de paroisse, un écrivain vraiment remarquable, professeur à l'Université Laval, auteur de nombreux ouvrages, et je vous en lirai un peu de ceux qu'il a choisis lui-même dans un livre intitulé « Le choix de Félix-Antoine Savard », publié aux presses laurentiennes un an avant sa mort. C'est donc le choix final, pourrait-on dire. Et c'est très, très beau. C'est grandiose. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Félix-Antoine Savard, t'es le fils de Louis-Joseph Savard et d'Ida Geneviève Gosselin. Je donne les noms comme Gosselin, ça peut intéresser bien des auditeurs qui sont des Gosselins ou apparentés aux Gosselins. Et Félix-Antoine Savard est né donc à Québec le 31 août 1896. Il y a eu 100 ans l'an dernier. Et après ses études classiques et théologiques au séminaire de Chicoutimi, il est ordonné prêtre. Non sans difficulté à cause des études qui lui ont beaucoup pesé. Il est ordonné le 4 juin 1922. Il se consacre à l'enseignement à son alma mater, la Chicoutimi, jusqu'en 1926, mais il ne trouve pas ça très, très drôle. Professeur de versification, belles lettres. Il est successivement vicaire de Bagotville, de Sainte-Agnès, Charlevoix. Sainte-Agnès, c'est là qu'il y a, je vous conseille d'aller visiter ça, le monastère des Petits Frères de la Croix. Un monastère rempli de jeunes vocations, remarquables, très peu connus malheureusement. Puis un beau monastère, situé sur un promontoire au-dessus du fleuve, c'est magnifique. Donc, près de Sainte-Agnès, à Charlevoix. Il a été vicaire. Là, il a été vicaire de la Malbaie, puis a été missionnaire colonisateur en Abitibi. Il a acquis une connaissance vraiment du peuple québécois, particulièrement du colon. Et tout ça, ça va favoriser son œuvre. Hein. On retrouve ça surtout dans Menot, Maître Draveur, mais aussi dans d'autres œuvres. Hein. Il est professeur de littérature à l'Université Laval à partir de 1941, oui. Et c'était un grand ami de Luc Lacourcière. Il a donc fondé avec lui des archives de folklore. Vous avez sans doute entendu parler de Luc Lacourcière, auquel on doit tant pour la recherche de notre folklore et de toute cette beauté de la langue et des chants anciens. Et Monseigneur Savard est devenu doyen de la faculté des lettres de l'Université Laval. Il a été doyen de 1950 à 1957, puis il a continué après son doctorat à donner quelques cours. Puis finalement, il s'est retiré le plus souvent à sa maison de Saint-Joseph-de-la-Rive, qui était magnifique. Oh, c'est beau, là. C'est un des plus beaux endroits du monde, ça. Et on peut dire que la qualité exceptionnelle de son œuvre lui a valu toutes sortes d'honneurs, hein. Ici au Canada, mais aussi à l'étranger. Quand il est entré au grand séminaire, il s'est passé dans son cœur bien des choses. Et dans un livre qui vient de paraître, qui est excellent, que je vous recommande très fortement, Monseigneur de Charlevoix, il l'appelle Monseigneur de Charlevoix, c'est Jean Desgagné, publié chez Fides il y a quelques mois à peine. Très, très beau livre. Et il dit qu'on est tenté de diviser sa vie en trois grandes périodes, celle de ses études classiques d'abord, qui commence assez tard, et puis qui l'aide à se découvrir. Il est doué d'une fine intelligence, il possède cette vertu que les scolastiques nomment, comme dit Jean Desgagné, studiositas. Il désire aller au fond des choses. C'est un ardent. Et on le voit d'ailleurs dans les photos. Toute sa vie, c'est un ardent. Je me souviens, je l'ai reçu chez moi. Oh, il y a bien longtemps. Ça doit bien faire 20 ans. Et je l'ai reçu, et cet homme déjà âgé était monté 4 étages à pied pour venir chez moi. Et quelle ardeur il y a mis, et quelle ardeur dans la conversation qui s'en est suivie. Car Mgr Savard désire aller, dès son jeune âge, au fond des choses. Et c'est en savant que toute sa vie, il va s'employer à scruter les complexités du langage, à maîtriser aussi l'exercice de la langue. Et toutefois, je l'avais interviewé à la télévision à Rencontre, et je lui avais envoyé le texte. Il s'était désolé devant le texte écrit, disant « Mais je ne sais pas parler français ». Et c'est une des désolations de notre peuple, la différence entre ce que nous disons et ce que nous écrivons, et même chez un grand écrivain comme lui. Oh, ça l'avait beaucoup attristé, ça. Et par ailleurs, les années que, plus tard, après ses études, il va consacrer à l'enseignement, mais ça va le faire pénétrer dans l'intimité là, des anciens auteurs. Et cette période, qui est en somme celle d'un long apprentissage, va se terminer dans la lassitude, dans une sorte de désarroi qui, pour quelques mois, va le conduire là où je suis allé moi-même. Il est allé à Saint-Benoît-du-Lac, il est resté quelques mois seulement, c'est en 1926, il a 30 ans. Et jusque-là, il a manifestement cherché sa voie. Et celle-ci lui est soudainement révélée lorsque il arrive dans ce pays de Charlevoix, l'année suivante, en 1927. Ça va se situer sur deux plans. Sa renommée d'écrivain fait aujourd'hui oublier que durant près de 2 décennies, comme le rappelle Jean Desgagnés, soit de 1927 à 1945, c'était presque 20 ans, il s'est intensément voué au ministère sacerdotal, un vrai prêtre, qui a notamment fondé une paroisse en Charlevoix, qui a construit une église. Il a œuvré comme missionnaire colonisateur. Ainsi, durant presque 20 ans, cet homme énergique a réussi à concilier les activités de prêtre puis ses travaux d'écrivain. Cette période qu'on peut considérer, dit Jean Desgagnés, comme la plus active et la plus productive de sa vie, se termine en 1945. Et après ça, bien, comme il était reconnu comme écrivain de premier ordre, avec les prix, il a gagné le prix David, le principal prix du Québec, il a gagné le prix aussi plus tard du gouverneur général. Eh bien, il était donc reconnu, il fait, peu après la publication de L'Abbatie en 1943, il fait son entrée dans le monde universitaire, et tout en poursuivant ses travaux littéraires, bien, il lui faut maintenant préparer des cours. Il remplit des fonctions administratives. Il n'aime pas tellement ça. Mais il multiplie les rencontres, il aime les gens. Il donne de nombreuses conférences, fort appréciées, il fait des discours. Mais de ces tâches qui lui pèsent, il ne sera libéré qu'au moment vraiment de sa retraite. La retraite. C'est tellement merveilleux, la retraite. Ça permet de faire bien des choses qu'on aime. C'est mon cas, et il prend sa retraite en 1964. Donc 18 ans avant sa mort. Alors il va disposer de plus de temps pour la réflexion, la méditation, l'écriture. Pour le souvenir aussi, c'est le moment où il se livre à ce long retour vers le passé, son passé. Et ses derniers ouvrages témoignent de ça, ce sont des souvenirs. Cet artiste consommé, comme dit Jean Desgagnés, ce poète inspiré, a d'abord été un homme de cœur. C'est tellement vrai. Comme j'ai aimé Mgr Savard, quel homme de cœur. Il n'a cessé de proclamer aussi sa foi en un Dieu de miséricorde et de bonté, son attachement inaliénable au sien, sa dévotion à tout ce qui nourrit, élève l'esprit. Il a célébré les valeurs traditionnelles de notre peuple québécois et assisté à leur pitoyable effondrement. Ça l'a blessé jusqu'au fond de son être, la chute de notre peuple. Pas la conquête anglaise. la conquête du matérialisme et de la bêtise. Il en a souffert. Devenu vieux, il considérait que ses idées n'étaient plus de mode. Et sans doute était-ce vrai pour quelques-uns. Mais c'est pas vrai. Il aurait fallu le lui dire, j'aurais voulu lui dire, pour bien d'autres cependant. Il faut le savoir, beaucoup plus qu'on pense, les idées de Mgr Savard, les idées que Radio Ville-Marie énonce en général, mais ces idées-là demeurent actuelles, très actuelles. Je dirais même que ces idées-là sont prophétiques, elles sont à l'avant-garde, ces idées qu'on considère comme périmées. Réveillons-nous. Et comme Menot, Maître Dravert, son livre, si connu, et comme Labati, ses idées n'ont pas vieilli. Elles font partie des choses de toujours. J'ai le goût de vous lire un bref passage de Menot. C'est tellement beau. Menot était assis à sa fenêtre et replié sur lui-même. Et tandis que tout autour, comme une couverture qu'une femme étale sur un lit, s'étendait la grande paix dorée du soir. Il écoutait les paroles miraculeuses. Nous sommes venus il y a 300 ans et nous sommes restés. Nous avions apporté d'outre-mer nos prières et nos chansons. Elles sont toujours les mêmes. Nous avions apporté dans nos poitrines le cœur des hommes de notre pays, vaillants et vifs, aussi prompts à la pitié qu'au rire, le cœur le plus humain de tous les cœurs humains, il n'a pas changé. Nous avons marqué un pan du continent nouveau, de Gaspé à Montréal, de Saint-Jean-d'Iberville à Lungava, en disant ici toutes les choses que nous avons apportées avec nous. Notre culte, notre langue, nos vertus et jusqu'à nos faiblesses deviennent des choses sacrées, intangibles et qui devront demeurer jusqu'à la fin. Autour de nous, des étrangers sont venus, qu'il nous plaît d'appeler des barbares. Ils ont pris presque tout le pouvoir, ils ont acquis presque tout l'argent, mais au pays de Québec... Comme si l'ombre s'était soudainement épaissie sur ces mots, la voix de Marie s'était mise à hésiter, mais au pays de Québec. Elle se pencha sur les livres et reprit avec une voix forte. Mais au pays de Québec, rien n'a changé. Soudain, Menot se dressa sur son siège, comme si ce qu'il venait d'entendre eût ouvert là sous ses pieds un gouffre d'ombre. Rien n'a changé, rien n'a changé, grommela-t-il. Violemment, à coup sec, il secoua sa pipe sur son talon, s'appuya un instant au cadre de la fenêtre, regarda du côté des libres montagnes qu'on pouvait encore distinguer au loin, puis pour chasser les pensées de ténèbres qui l'envahissaient, il plongea dans la braise de son poêle un éclat de cèdre avec lequel il alluma sa lampe, et tandis qu'il cherchait à démêler les pensées qui surgissaient du fond de lui-même, « Continue dans ton livre, » dit-il à sa fille, et elle reprit, « Rien ne changera, parce que nous sommes un témoignage de nous-mêmes, de nos destinées. Nous n'avons compris clairement que ce devoir-là, persister et nous maintenir, et nous nous sommes maintenus, peut-être afin que dans plusieurs siècles encore, le monde se tourne vers nous et dise, « Ces gens sont d'une race qui ne sait pas mourir. » Dans son journal... Félix-Antoine Savard écrit, « J'étais bien jeune lorsque mon professeur de versification, le cher André Laliberté, m'initia à cette science, et dès lors j'entrepris mes premières recherches, c'est sur l'étymologie, les origines de notre langue. Passant par le latin, je remontais vers le grec et parfois jusqu'au sanskrit. » C'est vrai que quand on lit dans des gros dictionnaires les origines des mots, on voit que ça vient parfois du sanskrit. Moi, ça me fascinait aussi quand j'étais jeune. Et il ajoute en sorte que maladroitement, sans doute, mais consciencieusement toujours, je m'habituais progressivement à chercher dans l'étymologie l'intelligence des mots les plus simples. Ceux dont un long usage a comme dénaturé ou obnubilé le sens. Et c'est vrai. Et ça aide un futur prêtre à comprendre ce qu'il lit, ce qu'il prie, ce qu'il enseigne. Comment ne pas reconnaître, dit Jean Desgagnés, comment ne pas reconnaître dans cette démarche, déjà là, un signe de son besoin pressant de dépasser le superficiel puis le convenu, pour plonger son regard vers l'essentiel des êtres et des choses, hein? Et dans tout ce qui fera l'objet de ces considérations, c'est le sens véritable qu'il va vouloir découvrir, Monseigneur Savard, oui. Il va s'y évertuer avec une ténacité et une rigueur qu'il va appliquer, évidemment, aux idées comme aux mots, dont il va chercher toujours à connaître la signification fondamentale. Ça permet de faire un signe de croix en comprenant ce qu'on dit, quand on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ça veut dire que ce que nous le faisons au nom de la Trinité, avec la Trinité, au sein de la Trinité, dans la joie d'appartenir à Dieu et d'être envahi par cette Trinité sainte. Mais y pense-t-on suffisamment? On voit des gens à l'église qui nous font des cercles au lieu de faire un signe de croix. J'en vois un souvent qui fait le... Il touche son front et son épaule gauche et c'est tout. Curieux. Alors les maîtres dont Mgr Savard parle avec chaleur n'ont pas tardé à lui inspirer un enthousiasme pour les auteurs anciens. Et c'est important, il a aimé Homère, les dramaturges grecs du 5e siècle, avant Jésus-Christ. Mais c'est pour un poète latin, Virgile, qui se passionne vraiment. Bien oui, comme Claudel était passionné par Virgile, et lui aussi. Il en mémorise des strophes entières, évidemment en latin, que durant toute sa vie il ne cessera de se réciter à lui-même, et qui reviendront fréquemment dans ses conversations. Il disait un jour, dans Carnet du soir intérieur, c'est très beau ce livre, « Un vers de l'Énéide plane au-dessus de moi ». Et de fait, c'est toute l'œuvre de Virgile qui l'inspire, comme on peut s'en rendre compte de façon particulière dans « L'Abatie ». Il l'appelle « le cher Virgile ». Ça peut vous surprendre hein, qu'il y ait un grand écrivain comme Claudel, grand croyant, hein, Monseigneur Savard, s'intéresse autant à Virgile. Mais nous avons tout perdu ça. Il dit aussi, ce sont aussi qui me reviennent ces écrivains exemplaires de notre belle langue française. Alors il parle de Villon, que nous étudions autrefois au collège, je ne sais pas si on étudie encore ça, le majestueux Bossuet. Lamartine, dont il se plaît à déclamer les vers à haute voix. Chateaubriand, enfin, dont les proses, explique Monseigneur Savard, ranimèrent le sentiment religieux de son pays et un peu le mien, dit-il. C'est un étrange phénomène, curieuse répercussion que l'influence religieuse de Chateaubriand dans les forêts du Nouveau Monde. Mais par bonheur, les convictions religieuses du jeune Savard, comme le dit si bien M. Desgagnés, s'appuient sur des bases moins littéraires. Mais, au styliste génial, il demeurera toute sa vie très attaché. Alors, il est influencé par La Fontaine. Mais son entrée au grand séminaire lui fait découvrir l'écriture sainte. Et puis, il lit aussi Maurice de Guérin. Il est très impressionné. Il dit... J'habite avec les éléments intérieurs des choses. Je remonte les rayons des étoiles et le courant des fleuves jusqu'au sein des mystères de leur génération. Je suis admis par la nature au plus retiré de ses divines demeures. Il a une façon de s'exprimer. Il a bien d'autres rapprochements à faire. Hein. Il a aimé l'ample poésie de l'univers. Créé par Dieu. Il est comme Claudel, hein? Il recherche la solitude aussi. Puis il exalte les humbles. Monsieur Savard était près des petits, qu'il considérait comme des grands. Et c'est peut-être le morceau qu'il intitule « Le centaure » qui a inspiré à l'auteur de la bâtie la saisissante image du centaure Alexis, Enfin, et c'est là l'essentiel, pour lui, l'auteur Maurice de Guérin chante la liberté. Peut-il en être autrement chez un disciple de Félicité de Lamennais, dont je vais vous parler demain, car Monseigneur Savard et Maurice de Guérin sont des disciples de ce prêtre Félicité de Lamennais qui malheureusement a eu bien des problèmes. Il s'en est fait le défenseur passionné. À ce sujet, il faut relire les chapitres 18 de Paroles d'un croyant. Je vais vous en lire demain. La liberté luira sur vous, écrit Lamennais. Félicité de Lamennais. Quand vous aurez dit, au fond de votre âme, nous voulons être libres, quand pour le devenir vous serez prêt à sacrifier tout et à tout souffrir. Or, Menot et Alexis, les personnages de Monseigneur Savard, ne pensent pas autrement. Monseigneur Savard a été saisi par la grande poésie de Claudel. Il écrit dans Symphonie du Miséréor, je vous en lis des extraits. C'était quelque part sur les grèves en Acadie d'automne, à l'heure que reviennent ou ne reviennent point les barques. C'était près d'une église abandonnée, un champ où jamais n'allaient plus les vivants ni les morts. Là, par la mer et les pluies et par les vents rongés, un noir funèbre chant tout à la broussaille, tout à l'oubli laissé, un lieu de démence où d'une certaine divine image, plus rien ne restait que cendre et poussière. Il veut dire que c'est les restes de ces marins qui sont créés à l'image de Dieu, qui sont une certaine divine image, plus rien ne restait que cendre et poussière. Et plus loin, il dit, éperdu dans la double nuit du ciel et de mes ténébreuses pensées, petit raisonneur debout sur l'inexplicable ossuaire, vous savez ce que c'est qu'un ossuaire, un cimetière, insolemment, je t'interrogeais, ô Dieu de vie. Et je criais, qu'as-tu fait de mes frères, cendre de cendre? Et honte de la terre vivante, et pourriture, et masque grimaçant et grotesque des têtes où jadis habitait ta pensée. Ô Dieu, qu'as-tu fait de ton image? Ô Dieu, qu'as-tu fait de nos morts? Et c'est alors que j'entendis, ô tous les printemps ressuscités, non point de voix plus pure, plus profonde et consolatrice que celle que j'entendis. Et elle chantait la divine antienne, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas en éternité. » Et écoute maintenant le mystère des humbles labeurs. Par la pitié de Dieu, transmué en musique éternelle. Et ce que j'entendis cette dernière fois, c'était une foule que personne n'aurait pu dénombrer. De toute tribu, de toute nation, de toute langue, et toute à la joie du retour, elle chantait la plénitude de la très douce et très suave miséricorde dans le soleil et la rosée du matin de Dieu. Ô musique, toute musique enfin, innombrable et glorieuse, glorieuse symphonie du Miséréor paternel, dans les siècles des siècles, les bienheureuses éternités concertantes. Oh, Amen. Amen. Mais, et dans cet excellent ouvrage que je ne saurais trop vous recommander, Monseigneur de Charlevoix, consacré à Monseigneur Félix-Antoine Savard, il l'appelle Monseigneur de Charlevoix, Jean Desgagnés, c'est publié chez Fides, ça vient de paraître. Ça se vend une vingtaine de dollars, mais c'est considérable et c'est très illustré. Eh bien, j'ai le goût de lire un peu à ma façon les dernières pages. C'est tellement beau. Jean Desgagnés a le tour de bien comprendre. Monseigneur Savard, il parle des sentiments, des attitudes, des descriptions, des notations que Monseigneur Savard a faites dans journal, puis Carnet du soir intérieur, ou même dans ses ouvrages antérieurs. Il y a une propension chez Monseigneur Savard à la contemplation silencieuse. Le sentiment de l'écoulement du temps. Il a le goût de l'image concrète, vivante. Il a surtout cette empathie, presque bouddhique, je dirais, monastique pour la nature. Car les moines dans les monastères ont un grand amour pour la nature. Ils vivent les quatre saisons. Ils vivent le temps qui fait. Ils sont plongés dedans, dans les campagnes, pour la plupart. En ne tenant pas compte de ce courant très sensible dans son œuvre, on négligerait un aspect essentiel de sa pensée poétique, nous dit M. Desgagnés. Jamais, sans doute, Savard n'a autant réfléchi sur la destinée humaine, sur la brièveté et la fragilité de la vie qu'à la fin de ses jours. « Voici un temps étrange, écrit Mgr Savard, voici un temps étrange et qui ne se mesure plus en années, en mois, en jours. La vie fait une sorte de compte à rebours à partir d'un instant qui lui est inconnu. Et parfois, au cours des longues insomnies de la vieillesse, on croit les entendre les morts qui nous parlent. Et cherchant à nous adoucir les rigueurs du passage, il nous inspire la hâte de les rejoindre et de participer bientôt à leur céleste paix. » Je me demandais à quel âge il s'est livré à des réflexions un peu sombres et résignées, mais très belles. C'est un peu avant d'atteindre ses 80 ans, puisque le tome 2 de « Journal et souvenirs » est publié en 1975, puis il est mort, je vous le rappelle, en 1982. Alors, s'il est lucide, Mgr Savard, il n'est pas pour autant abattu, car il demeure intellectuellement très actif. C'est le professeur Donald Smith qui en témoigne. En 1976, il parle d'un poète fraternel et jeune, puis 6 ans avant sa mort. Jeune, autant par son enthousiasme, dit Donald Smith, que par sa foi dans la fraternité puis dans le pays. Est-ce vraiment possible, se demande l'intérieur de Donald Smith, que ce jeune homme, combattant, ait bientôt 80 ans? Alors, Mgr Savard impressionne encore par sa détermination, par la fermeté de ses convictions, la vigueur qu'il met à les exposer. Et manifestement, il jette sur son époque un regard sévère, nous dit M. Desgagnés, et réagissant avec vivacité devant des changements qui lui paraissent intempestifs et périlleux, il observe, il constate, il dénonce. L'auteur du journal et du carnet du soir intérieur est un menot assagi et pacifié qui dresse le bilan de nos abandons puis de nos approfondissements à nous, pauvres peuples. Ce qu'on en a abandonné des choses. Ce que nous sommes pauvres, 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 en ayant tant abandonné. Heureusement qu'il y a des gens qui conservent, qui font grandir, qui alimentent cette société, qui la nourrissent et qui permettent aux enfants de s'épanouir. Mgr Savard commence par déplorer l'esprit religieux et matérialiste qui sévit. L'anticléricalisme sectaire. Pour un prêtre pécheur, on attaque tous les prêtres. Pour une sœur stupide, on accuse toutes les sœurs. Pour un frère malheureux, on accuse tous les frères. Pour un évêque qui a tort, on accuse tous les évêques. J'en ai marre, des fois. Et Mgr Savard accuse aussi la recherche effrénée des loisirs, des plaisirs, puis la licence à laquelle on prête abusivement le nom de liberté. C'est pas la liberté, c'est l'enchaînement, cette licence, comme on dit, la luxure. L'éducation des jeunes lui paraît livrée à des intérêts mercantiles, à des improvisateurs et même à des pervertisseurs de l'esprit. Mais il n'a pas tort, c'est pas être stupide que de dire ces choses-là. C'est pas être étroit d'esprit, c'est pas être conservateur, c'est être réaliste et concret et vivant. Il se plaint que la fête nationale, 24 juin, se mue pour lui en jour de tristesse et d'inquiétude, la bière et les bêtises, mais pas tant que ça. J'y suis allé quelquefois, j'étais surpris de la qualité des foules dans les rues. J'étais surpris les dernières années. C'est beaucoup mieux qu'il y a 10 ans. Alors il redit sa méfiance des planificateurs, des fabricants de systèmes. Il voit se préparer une impitoyable machine à broyer les âmes, comme il dit. Et dans Carnet du soir intérieur, il va parler des violences d'une civilisation qui détruit une vieille sagesse séculaire. Comme il a raison. Il s'écrie soudain, impatienté. Ah, c'est très beau. À certains jours, au milieu de cette pollution fracassante, blessante, qui sévit, qu'il est donc difficile de rester humain et de ne pas crier son mépris à cette innommable civilisation qui nous envahit jusqu'à l'âme. Alors, à côté des grands peuples solidement établis, dit « Nous sommes bien petits ». Il écrit « Nous sommes ouverts à tous les vents et comme démantelés ». Alors, rappelant que c'est le drame de Menot, Menot maître draveur, que je vous conseille de lire, de Mgr Savard, il prononce « Dans le branle-bas d'aujourd'hui, la parole prophétique de Louis Aymon restera toujours vraie. Il y a des choses sacrées, intangibles, et qui devront demeurer jusqu'à la fin ». Mais ces choses-là ne se trouvent pas au niveau des poubelles. Alors il se demande pourquoi écrire, Mgr Savard. Mes idées ne sont plus de mode. La cité de mes pères est assaillie de toutes parts. Et pourtant, il continue par amour de l'écriture, de sa race, du pays et de Dieu. Mais hélas, son petit peuple lui paraît menacé. Dans ses forces vives, on démantèle ses remparts qui sont la religion, la famille, la langue, les mœurs, l'amour de la nature. Il refuse d'applaudir ceux qu'il qualifie de démolisseurs de son pays. Détestant tout ce qui rapetisse, diminue, pervertit, et fidèle à l'idéal de sa jeunesse, c'est à travers le grand texte de Louis Aymon qu'il continue d'entendre la voix authentique du pays de Québec. Et certes, l'avenir de ce peuple, qu'il a toujours aimé avec passion, et jusque dans son passé lointain, c'est-à-dire dans ses racines françaises, certes, cet avenir l'inquiète et le tourmente. Toutefois, avec les années, il a pris un certain recul. Il s'est éloigné des terrains de discorde et se décrit comme un prêtre rendu à la convergence de son destin, à cette ultime pointe de l'âge où tout se rassemble, où tout se simplifie. Alors il pénètre dans l'intemporel. Il avance à petits pas dans les sentiers de la mort. Une certaine lassitude le fait aspirer au seuil de la vraie vie, comme il écrit. Au seuil de la vraie vie, comme il a raison, hein, où Dieu l'attend. Et rien d'étonnant, donc, à ce que tant de pages du carnet du soir intérieur, que je ne saurais trop vous recommander, carnet du soir intérieur, soient consacrées à Dieu, à sa foi en Dieu, à la prière, qui est comme le battement de cœur, comme le souffle de l'âme, écrit-il. C'est beau, hein, la prière, le battement de cœur, le souffle de l'âme. Il médite sur la miséricorde de Dieu, sur la communion des saints, si consolante, sur l'Église soudain rafraîchie et rajeunie par celui qu'il appelle le bon pasteur Jean 23. Et retrouvant l'enthousiasme qui le faisait autrefois chanter le Salve Regina au bord des eaux sombres de la Malbaie, il entonne le cantique des bénédictions qui est, après le poignant miséréor dont je vous ai lu des extraits tout à l'heure, son magnificat. Qu'est-ce que ce cantique des bénédictions? Bien, il l'a choisi, Mgr Savard, dans ce livre dont je vous ai parlé, Le choix de Félix-Antoine Savard, paru en 1981, un an avant sa mort. Je vous en lis de larges extraits. On ne saurait rendre meilleur hommage à Mgr Savard, à ce prêtre profond, que, en méditant avec lui, puis en priant avec lui, ce cantique des bénédictions. Mon bon et adorable Seigneur, tu nous as donné et confié d'innombrables merveilles pour la vie de notre corps et la joie de notre âme. C'est pourquoi moi, l'humble et reconnaissant vieux draveur, qui ne peut plus guère marcher mais qui chaque jour retourne en pensée vers vous, bois sacré, sanctuaire de ma patrie et de la vraie et sainte liberté, et que peuplent tant de beaux êtres visibles, et que survolent et fécondent les infinies puissances de Dieu, saint refuge de l'âme, à l'exemple du bienheureux saint François d'Assise, je chante. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour toutes les forêts végétales de mon pays. Car elles sont immenses et très belles, et généreuses, et habitées par toutes sortes de bêtes admirables, dont les unes sont couronnées de panaches royaux, et les autres soyeusement revêtues de fourrures de finesse, de chaleur et de douceur pour le corps frileux de l'homme. Et loué sois-tu pour le grand air très vif et revigorant, et combien pur et suave et embaumé de ces forêts. Et pour ce peuple innombrable d'arbres grands et petits, qui se partagent fraternellement les régions et les sucs de la terre, loué sois-tu, et en particulier pour ces très précieux érables, qui nous distillent le sucre doré du printemps, et que pour la gloire de l'automne, tu peins des plus variées et splendides couleurs. Et pour ces jeunes et ingénus sapins si gentils, nommés par nos pères les petits Saint-Michel, et qui, parfaits d'harmonieux équilibre et suintant des baumes très clairs, réjouissent ainsi l'odorat du corps et de l'esprit. Loué sois-tu pour ces bouleaux, dont l'écorce est blanche et rose, et même dorée, et dont le tissu se feuillette comme un livre, où sont inscrits les mystérieux hiéroglyphes des saisons, et dont nos frères les Indiens ont appris à nos ancêtres découvreurs à revêtir la coque des fins et hardis canaux de nos grandes aventures. Loué sois-tu, Seigneur, pour ces trembles, si sensibles au moindre souffle et trémolos et inspiration des esprits de l'air, et pour ces hauts pins, les blancs, les rouges, les gris, qui parlent et siffle des mots étranges dans le vent, et pour ces mélèzes larissins, et pour ces arbres incorruptibles, dont le nom Thuya rappelle celui de l'encens, Tus, et celui de cèdre, ce bois sacré dont Hiram de Tyr construisit le temple du très sage Salomon. Et loué sois-tu pour toutes ces fleurs, que tu changes en des fruits qu'on appelle sauvages, et qui croissent sans la main de l'homme, pour ces cerisiers, pour ces cormiers, dont les drupes rouges bravent les vents dépouilleurs de l'hiver, pour ces pimbinaces ou viornes, pour ces humbles quatre-temps, au cœur de rubis enchâssés dans des feuilles multicolores, et surtout pour ces bleuets veloutés qui sont comme le raisin gratuit et combien délicieux de chez nous. Mon béni sois-tu surtout pour l'arbre sacré que tu as choisi pour soutenir le divin corps de ton fils, dulce lignum, doux bois, comme on chantait jadis, arbor una nobilis, arbre de la passion, noble entre tous et dressé partout au-dessus de nos misères, au-dessus de la mort, comme le signe de notre immortelle espérance. Ça m'inspire pour continuer encore cette lecture magnifique, si beau, du Cantique des Bénédictions de Monseigneur Savard, qui nous fait découvrir au fond notre peuple et notre pays. Loué sois-tu, Seigneur, pour l'innombrable peuple des oiseaux, pour ces gentilles alouettes de la chanson, pour ces mésanges familières, pétulantes, qui habitent près de moi et mangent le sein doux que je leur donne, et gonflant leur plumage, s'en font de chaudes douillettes, pour dormir durant les longues et très froides nuits de l'hiver. Et pour ces saintes hirondelles que le bon saint François évangélisa, et pour ces pinsons chanteurs, et pour tous ces êtres si bellement plumagés, au vol pareil à celui de l'esprit, en particulier pour ces grives ermites, que j'ai écoutées tant de fois lorsque sur les fleurons de notre forêt gothique, elles chantent très mélodieusement à l'heure des laudes du matin et des vêpres du soir. Oh, loué sois-tu pour le très noble Monseigneur Saint-Laurent, ce long fleuve de tant de souvenirs, et pour toutes ces eaux ramifiées en tant et tant de rivières dont les unes sont douces et paisiblement cheminent vers la mer, et dont les autres sont fougueuses comme des cavales sauvages, cependant que domptées, elles sont génératrices de force, de lumière et de chaleur. Et ici, pourquoi ces eaux ne feraient-elles pas penser à cette puissante et force race de vrais hommes que tu nous as donnés, découvreurs, voyageurs, hardis, aux bras volontaires et infatigables, héros d'un courage intrépide, et qui ont partout navigué entre les écueils de la mort, et baptisé tout un continent, et manœuvré sans lasse, rabascasse et canot, et même chanté dans les périls les belles et joyeuses chansons de nos pères. Ignorés ou méconnus, ils habitent encore mes pensées et mon cœur, et j'aime à les voir rendus en gloire et repos au bord des saints fleuves de ton paradis. Et pourquoi ne te bénirais-je pas aussi pour ce ruisselet dont l'eau est de très pur cristal et qui saute en dansant balbutiant, chante ce que lui a révélé le ciel sur la haute montagne à Moïse en Charlevoix. Loué sois-tu, Seigneur, pour ces lacs en nombres innombrables, de toute grandeur et forme, et foisonnant de poissons de toutes saveurs. Les uns ornés de nénuphars ou lys d'eau, les autres bordés de myrrhe odorante, ils sont tous les miraculeux chefs-d'œuvre de l'équilibre au sein des tourbillons de l'univers, et les miroirs fidèles et purs de notre frère le soleil, et notre sœur la lune, et des constellations lointaines de la nuit. Il en est même un petit qui porte mon nom sur la montagne du Jardin des Caribous, et j'y retourne souvent en désir pour répondre à l'appel modulé de mon frère, le Huard, et pour y bénir ton saint nom. À toi, mon Seigneur, qui as fait toutes choses avec sagesse et amour, et selon le nombre, le poids et la mesure. Et aussi, pour notre sœur, parfois excessive, prolongée et lourde neige. Loué sois-tu, Seigneur, car elle est quand même, contre l'hiver, le royal manteau protecteur de la terre, et la joie des enfants, et l'écharpe des vents danseurs. Et avec ses cristaux multiformes, la neige fut choisie pour être le vêtement diamanté de ton fils transfiguré. Et pour l'âme purifiée, elle est, selon l'Écriture, devenue l'image de la blancheur. Super nivem de albabor, je suis plus blanche que la neige, chante-t-elle, et pareil à ces oiseaux de neige qui se posent sur nos arbres et dans les jardins, splendides de l'aurore et du soir, et rappellent les colombes du Cantique des Cantiques. Et enfin, loué sois-tu, Seigneur, pour notre terre labourable, que nos pères défricheurs ont péniblement essartée, épierrée, et que, malgré le vent pernicieux des idées contraires, des paysans encore fidèles continuent de semer en céréales et légumes et de jardiner en fruits. Race première et nourricière et noble entre toutes, et dont l'apôtre Saint Jean a dit que son père divin était, comme eux, agriculteur. Pater meus agricola est. On fait, ô bon Seigneur, que tous ces biens que tu nous as donnés et confiés servent à la justice, à l'amour, à la paix fraternelle de nos peuples. Ainsi soit-il de mon humble cantique, pour les siècles à venir, pour le bonheur de mes frères et la gloire de ton très saint nom. Il a publié ça dans le carnet d'histoire intérieure chez Fides en 1979, 3 ans avant de mourir. Monseigneur Savard a éprouvé une véritable fascination, je vous l'avais dit, pour certains aspects de la culture de l'Extrême-Orient, les connaissances de l'Est de Paul Claudel, dont je vous ai parlé avant-hier, il a sans doute été pour beaucoup. C'est après l'avoir lu que l'écrivain va éprouver le besoin de mieux connaître la peinture orientale. Il étudie ça, puis il dit que deux fois, je suis revenu vers ces pages, j'y admirais les belles estampes, j'y trouvais nourriture pour ma pensée. Et ces images dépouillent dans son âme ce qu'il y a de trop chargé. Il l'amène petit à petit à la délicatesse des choses. Il y a en moi un vieil oriental qui s'éveille par moments. Qui songerait à en douter? Un vieil oriental. Un vieux Québécois. Saisi par la beauté des choses, par la grandeur de l'univers, par la beauté de la création, et surtout par la bonté de Dieu, par la grandeur du Christ, par la beauté de l'Eucharistie, qu'il a aussi chantée.